L'Ancien Testament contient non seulement des prophéties concernant Jésus-Christ, mais aussi des symboles et des images qui annonçaient les raisons de sa venue sur terre. C'est ce que Jésus lui-même est en train d'expliquer à Nicodème, un des principaux docteurs de la loi du peuple d'Israël. L'incident dont il parle a eu lieu alors qu'Israël est dans le désert, et il est raconté dans le livre des Nombres écrit par Moïse. Je continue à lire dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Versets 14 et 15. Les Israélites s'étaient une fois de plus rebellés contre l'Éternel qui envoya des serpents pour punir les coupables. Suite à quoi ils reconnurent leur faute. Dieu a donc dit à Moïse d'élever un reptile de bronze sur une perche. Tous ceux qui avaient été mordus et qui le regardaient échappaient ainsi à la mort. Ce reptile symbolisait les fautes du peuple contre l'Éternel. De même, Jésus sera élevé sur une croix pour le péché du monde, afin que ceux qui lui font confiance aient la vie éternelle. Voici en effet ce que l'apôtre Paul écrivit. « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Fin de citation. La vie éternelle est un don divin qui est acquis pour l'éternité. Elle est d'une toute autre qualité que la vie naturelle. Je continue le texte. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Verset 16. Ce verset constitue un résumé important de la bonne nouvelle de l'Évangile. La motivation de Dieu envers sa créature, c'est l'amour. En conséquence, il a donné son Fils Jésus pour qu'il soit élevé sur une croix et devienne ainsi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cependant, l'amour seul de Dieu n'aurait pas pu me racheter si Jésus n'était pas devenu le sacrifice parfait qui satisfasse la justice divine. Ce n'est que grâce à la croix que Dieu peut me donner la vie éternelle, et de plus, c'est une pure grâce. Il me fait en cela une immense faveur que je ne mérite absolument pas. Par nature, nous sommes tous, sans exception, voués à la perdition éternelle, à la séparation d'avec Dieu, qui est la source de la vie, de la joie et de la vérité. Notre condition est comparable à celle du condamné qui attend le jour de son exécution dans les couloirs de la mort et à qui on demanderait si, oui ou non, il veut être pardonné. C'est cela, la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais elle s'adresse uniquement à ceux qui se reconnaissent perdus. Pour les autres, pour celui qui croit qu'il est plutôt quelqu'un de bien, Dieu ne peut rien pour lui. Je continue le texte. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Versets 17 et 18. Lors de sa première venue, Jésus-Christ n'est pas venu en tant que juge, mais comme sauveur. La seconde fois, ce sera différent. Très différent. Il reviendra spécifiquement pour châtier les nations nous dit un psaume que je cite. « Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre qui gouvernait le monde, laissez-vous donc avertir. Ô fils, rendez votre hommage pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. Oui, heureux sont tous les hommes qui en lui cherchent refuge. » Fin de citation. Nicodème et son groupe de pharisiens étaient quelque peu confus. Ils croyaient en deux messies, l'un souffrant et l'autre qui régnerait après avoir jugé le monde. Les religieux juifs n'avaient pas compris que le Fils de Dieu viendrait deux fois. Alors Jésus a mis les points sur les i lorsqu'il a dit « Je suis venu pour mourir, pas pour juger. » Bien que celui qui refuse de croire soit irrémédiablement condamné, le but de Dieu en envoyant son Fils est que tout le monde soit sauvé. La vie éternelle s'obtient en acceptant la personne de Jésus qui a accompli le nécessaire sur la croix pour que je puisse être pardonné de toutes mes fautes passées, présentes et futures. Ceux qui choisissent de ne pas faire confiance au Christ se placent eux-mêmes sous le couperet de la justice divine et ce jugement est sans appel. Les Israélites qui avaient été mordus par les serpents et qui refusaient de regarder le reptile en bronze, mis sur une perche par Moïse, sont tous morts sans exception. Je continue le texte. Et voici en quoi consiste la condamnation de celui qui n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Versets 19 à 21. Lorsque Jésus se présenta à Israël et au monde païen, les hommes durent prendre une décision à son égard. De concert, les Juifs et les Romains ont choisi de le rejeter. Pire, ils l'ont assassiné, cherchant ainsi à éteindre la lumière qui révélait leur péché. Maintenant, ce monde doit être jugé. Jésus fut éliminé parce qu'il était comme un phare qui éclairait les mauvaises actions des hommes. Or, celles-ci se font de préférence dans les ténèbres et à l'abri des regards. Celui qui fait le mal s'en rend compte en son âme et conscience. C'est pourquoi il s'efforce de le cacher aux autres, mais souvent également à lui-même. Bien qu'il se sente culpabilisé, il n'est pas prêt à renoncer à ses mauvaises voies. Lorsque la nuit on entre dans un lieu insalubre et qu'on met la lumière, les cafards, les rats cherchent tout de suite les coins obscurs pour s'y cacher. C'est aussi ce que dit un proverbe que je cite. « Les méchants prennent la fuite sans que personne ne les poursuive. Le juste est confiant comme un jeune lion. » Fin de citation. Ceux qui ont placé leur confiance en Jésus et qui désirent vivre en accord avec ses commandements accueillent favorablement la lumière, même si celle-ci éclaire leur travers et les pousse à se repentir. Je continue le texte. Après cela, Jésus se rendit en Judée avec ses disciples. Il y resta quelque temps avec eux et y baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Énon, près de Salim. Il y avait là beaucoup d'eau, et de nombreuses personnes y venaient pour être baptisées. En effet, à cette époque, Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Versets 22 à 24. Jean, fidèle à lui-même, précise exactement où les deux groupes baptisaient, où avaient lieu les deux grands mouvements populaires de réforme. Cependant, il ne nous est pas possible aujourd'hui de localiser exactement les villes mentionnées. Pendant une courte période, les ministères de Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, et de Jésus-Christ se sont chevauchés. La Judée de cette époque devait être fort animée avec l'enseignement que donnaient ces deux grands prédicateurs de la repentance et du royaume de Dieu. Ils avaient tous deux des disciples et des foules les suivaient. Je continue. Or, un jour, quelques-uns de ses disciples eurent une discussion avec un juif au sujet de la purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent « Maître, tu te souviens de cet homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et pour qui tu as témoigné? Eh bien, le voilà qui baptise à son tour et tout le monde se rend auprès de lui. » Versets 25 à 26. Les disciples de Jean-Baptiste étaient sans aucun doute jaloux de la popularité de ce nouveau venu par rapport à celle de leur maître. Ils se plaignaient de ce que tout le peuple allait plutôt vers Jésus. Je continue. Jean répondit, « Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous en êtes vous-même témoin, j'ai toujours dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. À qui appartient l'épouse? À l'époux. Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie, et à présent, elle est complète. Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. » Versets 27 à 30. La grandeur d'âme de Jean-Baptiste se révèle dans la réponse qu'il donne à ses disciples. Il leur rappelle ce qu'il leur avait déjà dit, en substance qu'il n'était pas le Messie, mais son précurseur. Lui, il ne faisait qu'exercer le ministère que Dieu, dans sa souveraineté, lui avait confié. Il est apparu pour annoncer et préparer la voie du Messie, en prêchant le baptême de la repentance. Maintenant, son œuvre se termine, tandis que celle du Christ ne fait que commencer. Tout cela n'était pas le simple fait du hasard, c'était le plan divin. C'est pour cette raison que Jean acceptait volontiers et avec joie que la popularité de Jésus grandisse. Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament. L'image de l'épouse représentant le peuple dans ses relations avec Dieu est utilisée dans l'Ancien Testament. Elle est reprise dans le Nouveau à propos de la relation entre Jésus-Christ et l'Église qui lui appartient. Lui, Jean-Baptiste, par contre, il se réjouit en tant qu'ami du marié et il sera présent lors de la célébration des noces de l'agneau dans l'éternité. Dans les mariages célébrés au Proche-Orient, l'ami de l'époux, le principal témoin, n'est évidemment pas le point focal de la cérémonie. Il n'est qu'un assistant. Mais il agit au nom du marié. Il s'occupe des arrangements préliminaires et s'assure que tout se passe comme prévu. Sa joie était comble lorsque son ami l'époux venait chercher son épouse. Il avait alors rempli son contrat moral et envoyé le fruit. Je continue le texte. « Qui vient du ciel est au-dessus de tout. Qui est de la terre reste lié à la terre et parle des choses terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. » Il témoigne de ce qu'il a lui-même vu et entendu, mais personne ne prend son témoignage au sérieux. Versets 31 à 32. L'apôtre Jean développe ici le thème de la suprématie de Jésus dont Jean-Baptiste a parlé à ses disciples. Étant donné que le Fils de Dieu est venu du ciel, ses paroles surpassent celles de n'importe quel docteur religieux qui est confiné à ses perspectives terrestres limitées. Par contraste, le Christ est éternel et vient du royaume des cieux. Il est hors de l'espace-temps auquel il est bien supérieur puisqu'il en est le créateur. Alors que nous sommes comme des poissons rouges dans un bocal, Jésus, lui, se tient à l'extérieur. Mais pour un temps, il a choisi de venir nous tenir compagnie. Mais malgré ça, personne ne prend ses paroles au sérieux, pas même ses disciples qui ne comprennent pas vraiment qui il est réellement. Je continue. Celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu est vrai. En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Versets 33 et 34. Jean écrit cet évangile 50 ans ou plus après la mort du Christ. Il savait alors parfaitement bien qui était Jésus. En disant qu'il certifie que Dieu est vrai, il utilise un vocabulaire légal. Il fait référence au sceau indiquant qu'un document est officiellement approuvé et dit en substance « Je garantis que mon témoignage est véridique ». Les prophètes de l'Ancien Testament bénéficiaient du soutien du Saint-Esprit pendant un temps limité qui correspondait à la tâche spécifique que l'Éternel leur avait confié. Il n'en est pas ainsi du Fils de Dieu. Jean explique que Jésus était complètement et continuellement investi de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, dans son évangile, l'apôtre Jean répète 37 fois que Jésus fut envoyé par Dieu afin d'attester sa divinité et son origine céleste. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 3. Le Père aime le Fils et lui a donné plein pouvoir sur toute chose. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Versets 35 à 36. Le Père et le Fils ont une relation d'amour et de confiance totale. Jésus fut investi de toute l'autorité divine afin d'accomplir la volonté du Père. Tout homme n'a que deux choix possibles, accepter le Fils de Dieu ou le rejeter, soit volontairement, soit par l'indifférence. L'incrédulité n'est pas seulement une ignorance tragique, mais surtout un acte de rébellion, une désobéissance délibérée à la volonté du Seigneur. La conséquence est terrible. La colère de Dieu, sa juste réaction face au mal, est dirigée contre les non-croyants et leur châtiment sera éternel. Dans son évangile, Jean ne mentionne ce courroux divin que dans ce passage. Et c'est ainsi que ce chapitre 3 se termine, sur cette note négative. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie, il reste sous le coup de la colère de Dieu. Les textes sacrés comportent beaucoup de mises en garde, de menaces, de jugements et de condamnations. Ce langage nous prend à rebrousse-poil parce que dans la vision du monde de nos sociétés modernes, il n'y a plus d'absolu. Chacun estime être une vérité en lui-même et n'accepte donc pas que quelqu'un d'autre ose lui adresser une remontrance. Mais Dieu, lui, ne prend pas de gants pour nous dire ce qui est mal et pour nous avertir de ses conséquences. Il nous traite un peu comme des ados qui seraient en maison de redressement. En fait, la plupart d'entre nous agissons ainsi à l'égard de nos propres enfants. Celui qui aime ses gosses les corrigera. J'ai une petite fille qui pense qu'elle s'appelle « Non, ne touche pas ». C'est pour dire. Ceci dit, cette visite nocturne de Nicodème et le discours de Jésus concernant la vie éternelle est un sommet de cet évangile. Maintenant, chacun sait à quoi s'en tenir. Cet homme religieux avait été impressionné par les miracles du Christ, et ayant pris son courage à deux mains, il vint le voir. Bien lui en fit, car malgré sa science, il n'avait pas compris qu'un homme naturel, livré à lui-même et à la religion des rites extérieurs, ne peut recevoir la vie éternelle. Il lui faut naître de nouveau. Cette action miraculeuse de l'Esprit sera rendue possible par le sacrifice du Fils de Dieu sur la croix. L'apôtre Jean a également écrit trois lettres. À la fin de la première, il répète à peu près ce qu'il vient de nous dire concernant la vie éternelle. Je le cite pour terminer. « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.